accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, ils sont enseignants, souvent très diplômés et sans emploi. En Turquie, ce mois de rentrée ne signifie pas la reprise des cours pour plus de 5500 professeurs d'université, limogés par le gouvernement Erdogan pour des motifs politiques. À la suite du coup d'État manqué de l'été 2016, la purge a touché de plein fouet tous les fonctionnaires soupçonnés d'être dans l'opposition. Sans preuve tangible, ils se retrouvent accusés d'activisme terroriste, sans revenu, parfois même sans passeport. Comment vivent-ils cette mise en quarantaine ? À Istanbul, Anand Lauer est allé rencontrer trois d'entre eux.
Lorsqu'il donne rendez-vous, c'est n'importe où, n'importe quand. Il a, dit-il, beaucoup de temps libre en ce moment. Mehmet Cemil Ozansu a perdu son travail, pas son sens de l'humour. Depuis que son nom apparaît en annexe d'un décret-loi d'octobre 2016, ce Turc de 36 ans n'enseigne plus l'histoire du droit à l'université d'Istanbul. Comme lui, plus de 5700 universitaires, parmi quelques 145 000 fonctionnaires, ont été limogés après la tentative de putsch de juillet 2016. Lien ou appartenance à un groupe terroriste, les décrets de révocation n'expliquent rien de plus aux concernés. Derrière ses lunettes rondes, cet enseignant, syndicaliste de gauche, dit avoir une petite idée.
Ça faisait des années que le rectorat essayait de me virer. L'état d'urgence était l'occasion rêvée. En 2008, nous avions lancé un mouvement pour améliorer le statut des assistants de recherche. Tous les meneurs ont été limogés. Cherchez le rapport avec le coup d'état.
Ibrahim Kaboulou, lui, ressasse depuis février les causes de son déshonneur, ainsi qu'il nomme son limogeage de l'université de Marmara. Est-ce parce qu'il est syndicaliste, opposant, qu'il a signé une pétition réclamant la fin des violences d'État dans le sud-est kurde ? Les trois, peut-être. Quoi qu'il en soit, cet éminent juriste, qui enseignait depuis 40 ans, refuse de s'y résoudre.
Oui, je bénéficie d'un certain respect parmi mes collègues, mais le gouvernement m'a officiellement déclaré terroriste. Moi qui ai combattu toute ma vie pour la démocratie, la justice et les droits de l'homme. Cette décision, c'est une tâche qui se transmet à vos proches. Dans 20 ans, ils diront à ma fille, ton père a été limogé.
Hülya Dinçer, elle, a eu les ailes coupées alors qu'elle venait juste de terminer son doctorat. Limogée de son poste, elle aussi, à l'université de Marmara, où elle était promise à une carrière de professeur.
On ne peut pas être employé en tant que fonctionnaire dans un autre secteur, et on ne peut même pas être employé dans le secteur privé, même s'il n'y a pas un obstacle juridique. Et les entreprises ou les employeurs, ils ne préfèrent pas nous employer parce que peut y avoir des conséquences pour eux. Donc pour nous maintenant, c'est quasiment impossible de travailler, de gagner sa vie, de continuer sa vie dans ces circonstances d'isolement social en fait.
Ces trois enseignants s'estiment chanceux. Ils n'ont pas de loyer à payer, pas d'enfants à nourrir et vivent de leurs économies. Beaucoup de leurs collègues radiés sont beaucoup moins favorisés. Mais lorsqu'ils licencient des fonctionnaires à coups de décret-loi, le gouvernement turc ne les prive pas seulement de leurs revenus et du droit d'exercer. Il annule aussi leur passeport, même lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée. Ibrahim Kaboulou.
C'est pour ça que je refuse de parler de simple limogeage. C'est comme si on tuait quelqu'un avec une balle de revolver, puis qu'on vidait le chargeur sur lui, puis qu'on piétinait son cadavre, puis qu'on le tirait au bout d'une corde.
Mehmet Cemil Ozansu acquiesce d'un sourire forcé.
C'est une mort sociale, même pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude des luttes, même quand tant de collègues sont dans le même cas. À la fin de la journée, vous êtes seul avec votre situation et vous commencez à vous poser plein de questions, à remettre en question votre vie entière.
Hülya Dinçer, elle, s'est occupée l'esprit en terminant sa thèse. Mais l'annulation de son passeport l'empêche de se rendre à Paris, à l'École nationale supérieure, où elle a obtenu une bourse postdoctorale. Aujourd'hui, elle doit gérer l'incertitude.
C'est pas facile de ne pas céder à la dépression et à la solitude. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant dans ma vie. Est-ce que je vais continuer à lutter pour exercer ma profession, c'est-à-dire continuer à faire des recherches, continuer à écrire Dois-je commencer à chercher un travail autre que l'universitaire? Donc je me trouve un peu bouleversée maintenant, je me sens un peu plus instabilisée, disons.
Pendant des mois, les fonctionnaires évoqués n'ont eu aucun recours. Sous pression de l'Europe, qui voyait les plaintes s'accumuler à la Cour européenne des droits de l'homme, les autorités turques ont créé une commission d'état d'urgence. Ces trois enseignants ont envoyé leur dossier, mais tous les trois ont hésité. Mehmet Cemil Ozan dessus.
M'adresser à cette commission illégale, c'est la légitimer. Je n'avais qu'une alternative, inviter les autorités à jouer mon avenir au backgammon. Croyez-moi, la décision de cette commission et l'issue d'une partie de backgammon ont la même valeur juridique. J'aurais même peut-être plus de chances de gagner au backgammon.
Composée de 7 membres, cette commission doit se mettre au travail dans les jours à venir. Elle aura fort à faire. Plus de 98 000 fonctionnaires ont contesté leur limogeage.
La solidarité européenne face à la crise migratoire, un bel objectif qui a bien du mal à se concrétiser sur le terrain. Alors que l'Italie et la Grèce doivent faire face à une arrivée massive de migrants, l'Union européenne avait décidé en septembre 2015 de les soulager un peu en mettant en place une politique de quotas extrêmement prudente, comme on va le voir. Bonjour Laxmi Lothar, vous êtes l'une de nos correspondantes à Bruxelles.
Bonjour.
Bruxelles qui s'était donné officiellement une date limite aujourd'hui pour mettre en place cette politique de relocalisation et les résultats sont bien en deçà des objectifs pourtant très modestes.
En effet, l'Union s'était donné deux ans avec un programme qui prévoyait de relocaliser 160 000 migrants dans toute l'Europe. Ce nombre a été revu à la baisse, ramené à 100 000, après l'accord conclu avec la Turquie en mars 2016. Mais selon Amnesty International, les États membres n'ont atteint que 28,7% de l'objectif fixé au départ. Seules 46 000 personnes ont été relocalisées.
Alors pourquoi cet échec, Laxmi ? On imagine qu'il y a de bons élèves et puis des pays très récalcitrants.
Eh bien, selon la Commission européenne, cette politique est plutôt un succès. L'institution parle de 10 000 migrants encore à relocaliser au total. Mais dès le départ, effectivement, plusieurs pays ont voté contre ces quotas obligatoires. La République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. Ils étaient bien sûr contraints de respecter ce mécanisme de répartition, mais peu l'ont fait. Les pays les plus en infraction sont ceux du groupe de Visegrad, les fameux rebelles de l'UE. La Pologne et la Hongrie ont refusé d'accueillir le moindre demandeur d'asile dans le cadre de ce mécanisme. La Hongrie et la Slovaquie ont même intenté un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour tenter d'échapper à cette obligation, mais leur demande a été rejetée au début du mois. La Slovaquie a accepté 16 des 902 demandeurs d'asile qui lui avaient été attribués. La République tchèque, 12 sur 2691. Il y a aussi les bons élèves, vous le disiez, Malte, la Finlande, l'Irlande. La Norvège et le Liechtenstein, qui participent volontairement au programme, ont eux aussi atteint l'objectif fixé. La France s'était engagée à accueillir 30 000 migrants. Seuls un peu plus de 4 000 sont arrivés en provenance d'Italie et de Grèce. Et face à ce bilan, la Commission européenne classe la France dans le groupe des pays qui devraient de toute urgence accélérer les transferts.
Et Laxmi, que signifie cette date limite ? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de relocalisation ?
Il y en aura toujours. L'obligation légale de relocalisation ne cesse pas après aujourd'hui. Elle s'applique à toute personne arrivée en Grèce ou en Italie jusqu'à cette date. Et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, l'a rappelé dans une lettre. Entre États membres, la solidarité n'est pas un plat à la carte.
Merci Laxmi Lothar à Bruxelles. Et à quelques semaines des élections législatives en Autriche, autant dire que la question de l'immigration figure en bonne place des débats politiques. C'est à Vienne que se sont installés la plupart des étrangers. Dans la capitale, un habitant sur deux est né en dehors de l'Autriche ou bien a un parent né à l'étranger. D'où l'initiative de ce commerçant, Martin Lassalle, qui a ouvert une école de conduite en plusieurs langues. À Vienne, Céline Béal.
13, c'est le nombre de langues qui sont parlées dans l'auto-école Vinvest. L'établissement est presque aussi polyglotte que les plus grandes organisations internationales qui siègent également à Vienne. Pour être sûr de bien comprendre le code de la route et la mécanique automobile, rien de mieux en effet que de suivre des cours dans sa langue maternelle. C'est l'idée de Martin Lassalle, dont l'école forme désormais à la conduite entre 1000 et 1500 personnes par an. Les moniteurs et les monitrices, parmi lesquels une femme voilée, parle en plus de l'allemand, le turc, le chinois, le persan, le russe, le polonais, le français, mais aussi les dialectes serbo-croates, par exemple. Le patron aime expliquer que chez lui, Serbes et Albanais s'entendent d'ailleurs parfaitement, malgré la guerre entre leurs pays d'origine qui a motivé leur immigration en Autriche dans les années 90-2000. Il veut y voir la preuve que l'intégration n'est pas aussi mal en point dans sa ville qu'on pourrait le croire en écoutant certains hommes politiques en pleine campagne pour les législatives. Selon lui, au volant en tout cas, tout se passe bien tant que l'on n'oublie pas que chaque personne a la même valeur, quelle que soit son origine et le nombre de chevaux sous le capot.
Welcome to the Collective Old Oak. Let me show you around.
On connaît les incubateurs pour ces entrepreneurs qui lancent leurs jeunes pousses, les espaces de travail partagés qui permettent l'échange, la formation, mais aussi et surtout un bureau pas cher. À Londres, où les prix de l'immobilier atteignent des sommets, il n'est pas rare de trouver des trentenaires qui sont encore en colocation, d'où l'idée d'organiser aussi un peu mieux ce vivre ensemble, une vie en communauté, non pas en mode hippie, mais version moderne et high-tech. Ça s'appelle le co-living et c'est le reportage à Londres de Marie Billon.
Le hall d'entrée est fait pour impressionner. Au très haut plafond, décoration industrielle branchée, façade de verre, un piano, des fauteuils et des canapés d'un côté, des tables où des jeunes travaillent sur leurs ordinateurs de l'autre, sans oublier deux réceptions, celle de l'immeuble et puis un petit guichet Uber, le service de voiture avec chauffeur. Le collectif se veut le paradis des hipsters, ces bobos britanniques, et n'a pas honte de leur faire des courbettes.
My name's Ed Thomas.
Je suis Ed Thomas. Je suis en charge de l'expérience communautaire. Mon but, c'est que chaque membre ait une expérience unique du début à la fin de son séjour.
Ed dit membre, mais il pourrait bien dire habitant. Plus de 500 personnes vivent dans les locaux de la collective au nord de Londres, dans le quartier de Old Oak. L'immeuble a été construit sur mesure, livré en mai 2016. 10 étages, un peu plus d'un demi-millier de chambres, sans parler des espaces communs.
À chaque étage, il y a une salle ouverte à tous. Là, sur le plan de l'immeuble, vous voyez qu'on a un bistrot français au 9e étage, une salle de jeu au 5e, une bibliothèque, un cinéma, un spa, plein de choses.
Tout cela ressemble beaucoup à ces nouveaux immeubles en verre construits un peu partout dans Londres et dont les appartements se vendent des millions. Les services de luxe à disposition des résidents sont comparables, sauf qu'ici, les habitants ont une moyenne d'âge de 28 ans et que les loyers sont raisonnables comparés au prix de la capitale, entre 900 et 1250 euros la chambre.
Notre cible, ce sont les jeunes professionnels, un segment de la population qu'on ignore généralement. Alors nous avons construit un immeuble en fonction de leurs besoins et en prenant en compte le fait que nous sommes une société où les gens se retrouvent souvent tout seuls. Le secteur immobilier ne fait pas assez attention à cette donnée. Sans parler que louer est souvent une expérience très désagréable. Si on veut louer au même prix qu'ici dans le secteur privé, on se retrouve facilement avec un propriétaire douteux, un appartement en mauvais état pour lequel il faut attendre des mois pour une réparation.
Nous arrivons dans une des habitations, un two bedroom comme on dit en anglais, qu'on a du mal à traduire par trois pièces en français car il n'y a vraiment que deux chambres et une minuscule kitchenette qui sert aussi de hall d'entrée et de bar à petit déjeuner. Chacune des chambres, allouées individuellement, est toute petite, environ 10 mètres carrés. Le lit double est encaissé au fond avec une télé au mur au-dessus des pieds, un mini espace de travail, un placard, quelques étagères. Tout est blanc et étincelant, mais on se sent à l'étroit. Ça n'est pas grave, car le but du collectif n'est pas que les locataires passent leur temps enfermés dans leur chambre. Il faut penser campus universitaire de luxe pour jeunes gens, comme Ford, étudiant. Il vit au collectif avec son frère depuis quelques mois.
On rencontre tout un tas de gens qu'on ne croiserait pas dans notre quotidien. Et puis, j'adore toutes les activités. Ce n'est pas partout qu'il y a un cinéma. C'est excitant. En fait, on n'a pas envie de sortir. Il y a même un restaurant au rez-de-chaussée.
Ford travaille aussi dans un des cafés du collectif. Et justement, à l'une de ses tables, Ryan est assis, en train de travailler sur son ordinateur. Comme Ed, son job est de s'assurer que les habitants vivent une expérience spéciale pendant leur séjour ici, qui dure d'ailleurs en moyenne une année. I'm trying to take the title of Chief
Hug Officer. Nous organisons plusieurs événements qui ont pour but de soutenir les entrepreneurs. Ils se rassemblent pour s'entraider aussi, mais s'ils ont besoin, ils peuvent me contacter quand ils veulent pendant la semaine.
Le collectif n'est pas un incubateur de start-up, mais il se veut certainement un cocon douillé. Maude Grenier est arrivée à Londres il y a un peu plus d'un an, et pour elle, le collectif, c'était la solution idéale pour faire grandir sa start-up, Internship Mapper.
Quand tu as une start-up, c'est vraiment chouette parce que tu peux faire un combiné entre ton hébergement et ton desk. Quand on est tout seul, tu as toujours besoin d'un espace positif et rester chez toi. Pour moi, en tout cas, ça marchait pas, donc j'avais besoin de quand même aller à la rencontre des gens et d'être dans un espace positif, où ça travaille, t'as tout, t'as le wifi, tu peux avoir la photocopie, t'as vraiment, c'est vraiment fait pour les professionnels et tu peux aussi inviter qui tu veux. C'est vraiment, voilà, vraiment la trendy de Londres, les grosses lumières, l'espace un petit peu métallisé, donc c'est vrai qu'avec des sofas de toutes les couleurs, donc c'est vrai que c'est très très positif comme environnement, donc c'est très pratique.
Mais Maude a quitté le collectif au début de l'été, un an lui a suffi.
C'était super bien pour le démarrage et après la chambre est assez exiguë, donc pour vraiment vivre longtemps, c'est quand même assez compliqué. T'as une fenêtre que tu peux même pas ouvrir au complet, donc c'est vrai que c'est un peu au niveau des placards, voilà. Enfin, c'est assez limité en fait comme espace. Ils ont quand même bien optimisé, hein. Mais voilà, j'avais besoin d'avoir un vrai espace à moi, une plus grande chambre, et puis d'être après tout le temps avec les gens. Des fois, t'as des jours, t'as pas forcément envie de parler, et puis voilà, t'as tous ces gens qui viennent sur toi.
Maintenant, Maude vit en colocation. Ils sont trois dans l'appartement, c'est plus gérable, dit-elle. Elle est aussi inscrite dans un club pour start-up dans lequel elle a un espace de travail. Elle paie environ 150 euros de plus par mois en tout. La jeune Française est très contente d'avoir vécu à la collective à son arrivée, mais pour elle, ce n'est pas la solution de long terme à la crise du logement à Londres.
Un ultranationaliste serbe, chef politique durant la guerre des Balkans, qui tourne en ridicule le tribunal pénal international de La Haye et cherche à brûler un drapeau européen, c'est à regarder, hélas, dans une émission de télé-réalité sur la chaîne de télévision privée Pink, une des plus populaires dans la région. Vojislav Seselj, qui est connu pour avoir déclaré qu'il fallait égorger les Croates à la petite cuillère et qui encourt une procédure en appel du TPI, ose tout. Merci à Nezic à regarder pour nous.
La première apparition de Vojislav Seselj dans cet épisode de télé-réalité donne tout de suite le ton.
Il n'y a pas de drapeau de l'Union Européenne ici pour que j'en fasse brûler un ce soir.
L'ultranationaliste serbe est à la hauteur de sa réputation. Ici, on l'appelle Vojo ou Docteur Seselj. Le colosse ventru est connu pour avoir défendu ouvertement le nettoyage ethnique dès le début des années 1990. La guerre qui a suivi en ex-Yougoslavie a fait 130 000 morts. Les volontaires rassemblés par Vojislav Seselj ont tué et torturé en Bosnie et en Croatie pendant la guerre. Il a été inquiété puis acquitté par le tribunal pénal international sur fond de soupçons de subornation de témoins l'année dernière. Plus de 20 ans après la guerre, on le voit ravi de faire son entrée dans cette émission de télé-réalité. Les participants lui serrent la main ou l'embrassent. Ce samedi 16 septembre, Vojislav Seselj se déguise en juge. Il est vêtu de la toge de tissu rouge et noir des magistrats du tribunal pénal international de La Haye. Ils singent ceux qui l'ont acquitté l'année dernière.
Pour le moment, tu es dans le box des accusés. Moi aussi, je suis une méga star. Et j'ai mis 12 ans à le prouver.
Ces apparitions prime time suscitent peu de réactions en Serbie. Le pays a encore du mal à se confronter avec son passé.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À demain.